Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Msika, la fondatrice de Cultivate, qui a pour ambition de créer des fermes urbaines dans toutes les villes de France. Pour commencer, on est chez Plantation, qui est la première ferme qui a été créée au nord de Paris, Porte de la Chapelle. Bonjour Sarah, merci de nous accueillir.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Donc on est effectivement sur le toit d'un immeuble, pas très loin des voies de chemin de fer qui sortent de la gare du Nord, dans le nord de Paris, dans un quartier qui est en pleine transformation, beaucoup de construction pour l'instant. D'où est venue l'idée de créer une ferme sur le toit d'un immeuble ?
Alors, je pense que cette idée est venue avant tout de mon amour pour les produits. Je suis née dans le sud de la France et j'ai toujours été bercée par la consommation de bons produits. Et quand je suis arrivée à Paris, il y a 12 ans maintenant, je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir accès à de la bonne production.
Ou alors c'était très cher.
C'était très cher, exactement. Il fallait faire beaucoup de recherches pour trouver les bons fournisseurs, surtout qu'il n'y avait pas, comme maintenant, toutes ces épiceries qui existent dans Paris. Et donc, en fait, à force de côtoyer des chefs, d'aller au restaurant, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en milieu urbain, parce que finalement, tous les produits qui sont consommés, type salade, micro-pousse, herbes aromatiques, voyagent en général beaucoup. Et pourtant, c'est des produits qui perdent beaucoup leurs vitamines et leurs nutriments quand ils voyagent. Donc, ça ne fait pas sens de ne pas les consommer et les cultiver localement. En fait.
Et ce sont des produits qu'on peut cultiver même sans avoir forcément des hectares de terre, des profondeurs de sol énormes.
Tout à fait. En fait, ils ont un système racinaire qui est relativement faible. Et finalement, en fait, on peut faire énormément de choses. Là, le potager qu'il y a derrière nous, on a 65 cm de terre et on est limité en rien. On a des framboisiers qui font 1,50 m de hauteur. On a des plantes topinambours qui sont énormes. Donc finalement, en fait, le système racinaire s'adapte aussi et peut aller vers l'horizontale. Et ce qui permet d'avoir en fait une diversité énorme, même en milieu urbain.
Alors, ce sont des projets de ce type. On en connaît notamment en Amérique du Nord. J'ai
venue d'une très grande ferme urbaine au Canada.
Oui.
En France, par contre, c'est relativement récent, non ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé avant de créer la plantation en Paris. Je suis allée effectivement en Amérique du Nord et en Asie. Donc, il y a beaucoup d'initiatives d'envergure avec des modèles économiques qui fonctionnent. Et en France, c'est un petit peu plus lent. On a beaucoup d'initiatives plutôt associatives qui ont leur vertu, évidemment, mais qui n'ont pas forcément une ambition économique derrière tout ça. Et nous, en fait, on s'est tout de suite positionné sur des espaces qui sont grands pour justement avoir un modèle économique, parce que nous, les projets qu'on développe, ils ne sont pas subventionnés. On les développe en propre avec mon associé Sydney Delourme.
L'objectif, c'est que ça marche.
Exactement. En fait. C'est de vivre de notre production. Et donc, chaque chose qu'on implante doit être rentable d'une certaine façon. Donc, il y a beaucoup de réflexion dans tout ce qu'on produit, en fait.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est lorsqu'on se souvient que Paris, pendant très longtemps, a été une zone de production énorme et que jusqu'à la fin du 19e siècle, la nourriture des Parisiens, en tout cas tout ce qui était légumes, fruits, etc., était produit aux alentours de Paris. Ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu.
C'est tout à fait vrai. Alors, même pendant la Seconde Guerre mondiale, on se souvient tous de cette image du Louvre avec les patates qui poussent à l'intérieur. C'est vrai qu'on a perdu ça. Il y a pas mal de fermes en Île-de-France, mais elles ne sont pas forcément grandes ou sinon elles sont très monoculture. Et c'est vrai que finalement, en fait, nous, on a vraiment voulu avoir une diversité dans la ville sur des produits qui nécessitent d'être consommés ultra frais et qui, en général, voyagent. Et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça et on sent qu'il y a une vraie appétence du côté des consommateurs et des Parisiens qui sont hyper fidèles à la plantation depuis le départ. Et pour nous, c'est des signaux positifs qui montrent que les projets qu'on essaye d'implanter dans Paris font sens.
Vous avez donc créé ce lieu. Vous êtes entre guillemets fermière, mais rien de votre histoire, a priori, ne vous destinait à ça. Racontez-nous un peu votre parcours.
Oui, alors effectivement, je suis une fermière moderne. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai fait 5 ans d'histoire de l'art et de droit avant d'être prise par un concours de la Sorbonne qui valorise les profils qui ont fait de la recherche dans le monde de l'entreprise. Et je suis rentrée chez PwC dans le conseil.
Alors vous deviez être une sorte de, comment dire, d'électron libre ou en tout cas de différence au sein du... Comment dire, des recrutements classiques de PwC, non ? Qui est, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, un gros cabinet de conseil.
C'est tout à fait vrai, j'étais un petit peu un ovni, mais finalement, je me suis assez rapidement adaptée au contexte business parce que j'ai toujours eu l'habitude de m'approprier des sujets, notamment par le fait que j'ai fait de la recherche en études, et du coup, finalement, m'approprier des sujets, quels qu'ils soient, et après les restituer, c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi. Donc, j'ai été assez vite et j'ai gravi les échelons, et en parallèle, j'ai toujours été très amatrice de très bons produits, c'est ce que je disais en introduction.
Gourmande.
Grande gourmande. Je suis devenue enquêtrice gastronomique pour le guide Lebé. Je côtoie beaucoup le monde de la gastronomie qui m'inspire et me fascine énormément. Et c'est à force de baigner et de rencontrer ces gens-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et que j'avais plus rien à faire dans les tours de la Défense et que mon rôle était plutôt d'essayer de développer des projets verts qui font sens en milieu urbain.
Vous disiez qu'il y a donc une vraie volonté que ça fonctionne, que ça soit autonome, que ça soit même rentable. L'entreprise n'est pas un gros mot, loin de là. Et que votre projet était vraiment pensé le plus possible à 360 de manière circulaire.
Oui.
Donc c'est on produit sur place, on limite les transports, on est dans l'ultra saisonné, mais il y a aussi toute une réflexion sur l'énergie. Alors racontez-nous ça parce qu'on oublie souvent à quel point ce qu'on mange finalement est monstrueusement consommateur et d'énergie et donc pollueur.
On ambitionne d'avoir le plus petit bilan carbone qui soit avec nos produits, que ce soit dans la cuisine des chefs que dans les rayons. Et alors du coup, il y a une multitude d'initiatives qu'on met en place pour y parvenir. Donc la source d'énergie des serres est forcément un élément crucial, en fait. La serre est un outil qui permet de produire toute l'année et donc d'avoir des clients récurrents et donc d'avoir un modèle économique. Donc ça, c'est un point clé, exactement. Et dans tous les projets sur lesquels on travaille, il faut pour nous que la source d'énergie qui permet de chauffer la serre soit propre.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de brûler du gaz ou autre pour chauffer.
Exactement. Sur ce projet-là, la source d'énergie, elle est assez atypique puisqu'il y a un data center qui est situé en sous-sol du bâtiment qui, en fait, agrège toutes les données des APHP de la ville de Paris.
Autrement dit, des ordinateurs qui tournent, des calculateurs qui tournent et qui chauffent.
Exactement. Et donc, nous, on a fait un investissement qui est relativement lourd pour justement venir récupérer cette chaleur en sous-sol et la remonter dans la serre pour que la serre soit chauffée de façon vraiment propre et circulaire.
On remercie la PHP.
Oui.
Vous avez parlé des consommateurs. Donc, vous produisez un certain nombre de végétaux, beaucoup de pousses, mais également d'autres végétaux pour les chefs, mais aussi pour le grand public.
Oui.
Quels sont les débouchés, justement ?
Alors, c'est vrai que, du coup, on a voulu le rendre très différencié, en fait, c'est cet aspect de débouché. Donc, on a à la fois des paniers potagers. Pour les gens qui le souhaitent, ils peuvent venir récupérer les paniers au pied de la ferme. Ou sinon, ils peuvent aussi se faire livrer en vélo cargo dans Paris, pour les gens qui ne peuvent pas venir à la ferme. Et en parallèle, on est aussi dans des réseaux de distribution. Donc, il y a plusieurs réseaux comme Franprix. Là, on est en cours de déploiement de Monoprix. On va démarrer avec la grande épicerie. Donc, il y a un certain nombre de réseaux sur lesquels on est présent.
En termes de tarifs, ça représente, c'est des produits qui sont beaucoup plus chers que la moyenne, qui sont au prix de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les grandes surfaces parisiennes. Comment ça se passe ?
Non, effectivement, on a réussi à se caler malgré nos efforts, parce qu'il y a un aspect aussi très important sur nos produits, c'est qu'on a co-développé notre packaging, qui est un flow pack qui est home compostable. Donc c'est assez...
Pas de plastique, pas de film, pas de barquettes, etc.
Exactement. D'accord. On voulait qu'il soit léger, aussi léger que nos produits, et pas venir mettre des barquettes qui sont plus lourdes que le produit à l'intérieur, ce qui ne fait pas sens et ce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans les rayons. Et donc il y a cet aspect-là aussi qui est important, et donc dans les rayons des supermarchés, on nous retrouve par ce biais-là. Et du coup, effectivement, on a voulu positionner les prix sur le bio, sur ce qu'on trouve aujourd'hui en bio. Donc il n'y a pas de décrochage tarifaire, et on veut que la production de qualité soit accessible à tout le monde, en fait. Donc on a essayé d'optimiser au maximum, malgré tous les efforts qu'on fait en parallèle sur justement ces packaging qui coûtent beaucoup plus cher que le flow pack de plastique recyclé et recyclable qu'il y aurait du voisin d'à côté.
Il y a des haricots si tu veux là.
Dis-moi.
Ouais, plein d'haricots. Ils sont meilleurs quand ils sont tout fins comme ça.
Ne vous fiez pas aux apparences. Ils ont beau être en bras de chemise ou en petite robe, ces employés de bureau sont des jardiniers en herbe. Chaque semaine, ils quittent leur bureau situé en plein cœur de Paris pour entretenir leur potager aménagé sur le toit terrasse de leur entreprise.
On ramène de la vie en ville et ça rend la ville quand même plus agréable pour tous, quoi.
Potager en entreprise, en maison de retraite ou à l'école, le modèle d'agriculture urbaine est en pleine expansion. Rien qu'à Paris, plus de 70 hectares de toiture sont végétalisés. Et l'objectif de la ville est d'atteindre 100 hectares d'ici 2 ans. Mais ces légumes exposés à la pollution sont-ils bons pour la santé ?
Pour le moment, on reste largement en dessous des normes européennes pour le plomb et le cadmium. Après, on s'intéresse bien sûr, par exemple, au mercure, qui est un élément toxique pour lequel on n'a pas de normes, on ne trouve non plus rien dans ces légumes-là.
La pollution urbaine ne nuirait donc pas à la qualité des légumes, à condition d'être cultivés dans un sol sain et suffisamment en hauteur. On estime que ce modèle d'agriculture urbaine pourrait nourrir au moins 800 millions de personnes dans le monde.
Elle s'attable.
Sarah Msika, qui sont les chefs qui aujourd'hui privilégient les produits de Plantation Paris ?
Ils ont des profils qui sont très différents. On va travailler avec des gens de la grande gastronomie, comme Guy Savoie, Pierre Hermé, qui sont des gens qui nous ont fait confiance dès le départ et qui nous suivent depuis très longtemps. Et il va y avoir des bistronomiques qui sont plus engagés, qui ont envie de faire une carte qui est vraiment basée sur 80 à 90% de produits de la plantation. Donc je pense notamment au Grand Bain, qui est un client très fidèle depuis le départ et qui est fascinant dans le travail, parce qu'ils changent de carte toutes les semaines. Et donc, en fait, ils prennent vraiment ce qu'il y a, contrairement à d'autres clients avec lesquels on va vraiment partager le plan de culture 6 à 8 mois à l'avance et qui vont adapter leur menu sur la base de notre plan de culture. Donc, il y a vraiment différents types de profils. Et on va aussi travailler avec des chaînes de restauration qui permettent de faire du volume aussi, comme par exemple Wild & The Moon dans Paris, qui en ont 10. Et par exemple, on approvisionne beaucoup des restaurants de Wild & The Moon avec nos produits.
Pour les restaurateurs qui sont vos clients, vous avez parlé de plan de culture, Sarah Msika, ce qui signifie que Plantation Paris, 6 mois, 1 an à l'avance, détermine quel type de plants vont être cultivés, quelle surface va être allouée, etc. Est-ce qu'il y a des restaurateurs ou des clients avec, pour lesquels vous cultivez des graines particulières ou avec lesquelles vous créez, vraiment vous organisez ensemble la future production ?
Oui, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui nous différencie aussi. Moi, j'ai pas envie de produire des choses qui ne viennent pas finalement du restaurateur lui-même, donc c'est ce qu'on propose à tous les restaurants avec lesquels on travaille et on les sélectionne. Et c'est vrai que du coup, par exemple Sola, qui est un restaurant étoilé japonais, on produit à façon, donc ça peut faire peur, mais finalement produire à façon, c'est aussi produire pour le chef ce qu'il a envie d'avoir dans ses cuisines. Et pour nous, c'est quelque chose d'hyper primordial, en fait. Et donc, voilà, sur la serre, il y a certaines parties qui sont vraiment allouées à tel chef et d'autres à tel autre chef.
Combien de variétés sont-elles cultivées chez Plantation Paris ?
Waouh ! Je pense qu'on a une soixantaine de variétés d'aromatiques différentes qui vont de choses comme de la mélisse ou des basiliques, des chiseaux, des plantes camembert, de l'oxalis.
Des plantes de camembert ?
Oui,
ça je ne connais pas.
La plante camembert, elle est assez atypique, elle sent vraiment fort et elle goûte réellement du camembert. C'est...
Mais affiné, pas affiné
Moyennement affiné, mais il est vraiment fort. Et du coup, oui, effectivement, on a, je pense, à l'échelle du projet, une centaine de variétés différentes entre les aromatiques et les légumes.
D'accord. Et vous cherchez régulièrement de nouvelles choses également ?
Oui, c'est une quête insatiable. Réellement, en fait, je passe ma vie à essayer de trouver des semenciers qui travaillent avec des semences qui sont bio, reproductibles et, si possible, déméter, parce qu'on a une vraie conduite de culture pour nous, qu'on veut être la plus parfaite possible, même si la perfection n'existe pas et qu'on est toujours perfectible. Mais pour autant, c'est ce qu'on cherche. Et donc, je suis constamment en train de chercher des semenciers de précision, comme je les appelle, et avec qui on peut travailler sur des choses qui sont soit classiques, mais voilà, d'un goût parfait, c'est ce que cherchent les chefs, et aussi des choses qui sont un petit peu plus différenciantes.
Combien de personnes travaillent-elles aujourd'hui chez Plantation Paris, Sarah Msika ?
Alors, on a une dizaine de personnes sur le projet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Avec une perspective de croissance qui est relativement importante puisqu'on a eu un an d'inactivité avec le Covid sur la partie événementielle. Et la partie événementielle est un élément assez important aussi du projet parce qu'il permet de rendre accessible le lieu par le biais d'événements qu'on organise. Donc par exemple des cours de yoga, on fait des cours de lactofermentation, on va faire plein de choses en lien thématique avec les produits. Donc on arrive toujours à créer des liens, même quand on fait un cours de yoga avec Lily Barbery par exemple. On va avoir les produits de Wild and the Moon qui est un client qui ont été faits préalablement avec nos légumes. Donc on essaye de vraiment avoir une circularité dans tout ce qu'on propose.
Car je tiens à préciser qu'au-delà d'une immense serre posée sur un toit d'un côté, d'un potager de l'autre, il y a au milieu un espace avec une structure en bois qui est une salle très ouverte vers l'extérieur, extrêmement lumineuse, dans laquelle effectivement il peut y avoir des séminaires, des rencontres, des cours de yoga,
exactement,
etc.
Exactement, c'est un lieu qui est privatisable et on l'a pensé avec les mêmes exigences que la façon dont on produit finalement. Donc le bois, il est issu de forêts françaises durables qui sont replantées. Donc ça, ça a été un travail très dur aussi pour trouver les bons artisans qui savent travailler avec les bons matériaux. Donc il y a toute une démarche derrière dans la construction et on a voulu faire de ce lieu un lieu exceptionnel puisqu'on a une très belle vue aussi sur Montmartre.
Je confirme, on voit le Sacré-Cœur qui se pavane devant nous, surtout qu'aujourd'hui il y a un énorme soleil en plus. Donc
c'est un lieu qu'on a voulu exceptionnel et on espère pouvoir imaginer plein d'événements différents parce que ça s'y prête.
Sarah Msika, quel est l'avenir pour Cultivate ?
Alors, il est protéiforme. Ce projet nous a donné beaucoup de visibilité parce qu'il est relativement unique de par sa taille. Donc, on a eu beaucoup de demandes entrantes pour réaliser des projets similaires. Alors, évidemment, on ne peut pas en faire partout. Nous, on sélectionne des projets uniquement qui font sens parce qu'il y a une difficulté de s'approvisionner dans certaines villes sur des produits de qualité qui, en général, voyagent beaucoup.
J'imagine que ça concerne un certain nombre de grandes métropoles françaises, déjà.
Exactement, c'est ça. Et on a aussi des velléités d'expansion à l'international puisqu'on a des demandes en fait tout simplement et qu'on considère que tout le monde
a le droit.
Mérite d'avoir des projets qui sont ambitieux dans leur milieu urbain.
Est-ce qu'il y a déjà des indices qu'on peut donner sur d'éventuels futurs projets ou c'est encore un peu tôt ?
Alors je peux dire qu'on a gagné un projet qui est deux fois plus grand à quelques kilomètres d'ici et on en a gagné un autre également qui est assez atypique puisqu'il est sur une usine de traitement de déchets et on va pouvoir en fait produire des légumes un petit peu atypiques qu'on n'aurait pas l'habitude de produire en milieu urbain parce que tout simplement il y a une source de chaleur illimitée et propre qui nous permet de faire des choses qui sont un petit peu funky et exotiques.
Est-ce qu'il y a un travail également sur tout ce qui est insectes, diversité insectes pour Cultivate ?
Alors, en fait, on a créé beaucoup de biodiversité. On est absolument fascinés par ça avec les équipes parce que finalement, seulement 2 ans de production, on a recensé
plus... Oui, dans un lieu qui est hors sol, c'est le cas de le dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est suspendu dans un quartier très bétonné.
Exactement. Il y a vraiment très peu d'espace vert autour. C'est un nouveau quartier, donc il y avait beaucoup de vide. Et en fait, en 2 ans seulement, on a recensé des dizaines de variétés d'abeilles différentes. Et c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent en fait en synergie entre le potager et la serre. Donc on voit souvent les personnes qui travaillent dans la serre qui vont en fait dans le potager pour récupérer des coccinelles parce que typiquement c'est des acteurs qu'on aime beaucoup, exactement, dans la serre. Et donc en fait ils sont toujours en train d'aller chercher des insectes dans le potager pour les implanter dans la serre. Et c'est assez fascinant en fait de voir que finalement tout cet écosystème se grandit et vide lui-même. Et,
oui,
on
et que dès qu'on donne l'occasion à la nature de se développer quelque part, elle se déchaîne.
Exactement. Et même par exemple, moi je suis surprise de voir le soir quand je finis tard des chats sur ce toit qui se baladent tranquillement et des chats sauvages. Je savais même pas que ça pouvait exister sur un toit dans Paris.
Sarah Msika, j'aimerais savoir, vous qui êtes donc tous les jours à la fois les mains d'une certaine façon dans le verre et les mains sur le clavier d'autre ordinateur, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'ordinateurs, qu'est-ce que ce projet a éventuellement changé dans votre manière de vous nourrir à titre personnel ?
Eh ben, je me questionne plus déjà, puisque je fais confiance à la façon dont je produis, puisque c'est voilà, on a une conduite de culture qui est ultra exigeante, donc il y a rien. Moi, je mange, enfin, on se balade, on mange les légumes sans les laver ou sans les nettoyer parce qu'ils sont pas traités en fait. Les seules choses qu'il peut y avoir en résidus, c'est éventuellement des huiles essentielles quand on fait des traitements parce qu'on a des invasions, mais c'est vraiment la seule limite. Donc c'est vrai que sur ma consommation personnelle, j'ai la chance de maintenant pouvoir me nourrir de mes propres légumes, ce qui est un luxe absolument, je pense, exceptionnel en ville. Et c'est vrai que maintenant, quand j'achète des produits, quand je suis en déplacement dans des magasins bio, je suis quand même globalement très déçue parce que ils n'ont pas été récoltés le jour même, il manque de fraîcheur et forcément, il y a quelques jours entre la récolte et le transport qui font que la qualité s'en ressent, en fait.
Est-ce que vous pensez que l'avenir est à ce type de projet et que dans les 20 ans qui viennent, nous verrons dans les villes se développer des fermes urbaines, alors qu'elles soient horizontales comme celle-ci ou verticales? Je sais qu'à Singapour, par exemple, on développe des fermes verticales.
Alors, je pense que ces projets feront de plus en plus partie des univers urbains. Enfin, je pense que c'est quelque chose de crucial. Pour autant, il faut faire très attention. Il y a agriculture urbaine et agriculture urbaine. Nous, on est plutôt fondamentalement contre tout ce qui est en indoor en France. On se différencie de ces modèles-là.
Avec des lampes UV et des...
Exactement, qui ne voient jamais la lumière et des insectes tridimensionnels un peu étonnants à l'intérieur. Je pense que c'est important que ces projets se déploient, mais il faut faire attention à la qualité, comment ils s'implantent. Évidemment, nous, jamais on va répondre à un appel d'offres ou on va répondre aux sollicitations qu'on peut avoir si c'est le long d'une autoroute.
Au troisième sous-sol d'un parking
exactement,
abandonné.
Exactement, voilà. Donc, c'est important que ces projets se développent, mais il faut voir comment et avec quelle exigence.
Vous nous emmenez visiter ?
Avec grand plaisir, et goûter.
Et goûter.
Alors nous voilà dans la serre.
Oh, c'est immense! Donc c'est une espèce de vaisseau de verre avec une vue à 360 degrés sur tout Paris et il fait assez chaud, hein, beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur.
Oui, exactement. Du coup, c'est vraiment notre outil productif. Et donc on est sur une surface de 1200 m² avec d'un côté du coup les espaces pour faire les bébés plants et ensuite les espaces pour faire toute la croissance du plant jusqu'à sa consommation finale en maturité terminale.
Et ça ronronne autour de nous parce qu'il y a des ventilateurs qui tournent en permanence.
Exactement, c'est de la ventilation naturelle qu'on crée notamment avec les ouvrants, plus en complément les aérateurs.
On y va ?
On y va.
Alors là, on est côté pousse.
Exact.
On va voir.
Allez. Donc en fait, là, on est dans le...
Là, on a les bébés pousses.
Exact. Donc c'est là que tout démarre. Donc là, elles sont au stade vraiment tout bébé. Et ensuite, soit on les fait grandir ici sur de la terre et elles deviennent des micro-pousses pour les chefs.
Oui.
Donc là, par exemple,
qui leur permettent de faire toute la déco et les petites subtilités.
Ouais, et au-delà de la déco, enfin, je vous invite à goûter. Oui,
c'est du concentré de.
C'est
de
un boost sarment. Incroyable. Donc ça, ce sont les amarantes avec une couleur qui est assez incroyable.
Et c'est
donc
bon.
Là, typiquement, c'est le shiso qu'on produit spécifiquement pour le restaurant Sola.
Donc, shiso rouge.
Shiso rouge, exactement.
Qui a une saveur assez un peu mentholée, un peu forte, un peu de mémoire. Non
très herbacée, ouais. Je vous invite à goûter aussi.
N'importe laquelle, vous me permettez.
Vous pouvez y aller. Franchement,
un petit morceau.
On est vraiment sur un concentré
de
saveur.
C'est hyper herbacé. C'est presque un peu piquant.
Exactement.
Et une espèce de pointe
Ah, c'est un peu mentholé.
Oui,
un peu mentholé.
En fin de bouche, c'est vrai.
C'est étonnant.
Donc là, on va avoir ensuite de la capucine. Donc ça, c'est
poivré.
Voilà, c'est poivré. Il y a presque un petit côté électrisant sur la bouche. Et les chefs en sont très friands à Paris parce que ça apporte beaucoup de choses, notamment sur le poisson. C'est assez intéressant.
D'accord.
Donc ça, ce sont les pois verts. Moi, c'est probablement c'est bien, ma micro-pousse favorite. Ouais. Donc je vous invite aussi à en piquer une si vous voulez. C'est un pichout, moi j'appelle ça. C'est vraiment un boost de vitamines avec le goût du petit pois comme on l'imagine de l'enfance, un peu au beurre.
Oui.
Et je trouve ça assez exceptionnel.
C'est beurré, très vert. Ouais. Et effectivement, c'est très joli dans les assiettes. Récemment, dans plusieurs restaurants, j'ai vu des micro-pousses comme ça de pois et je me disais, oh, c'est magnifique, c'est plus trop la saison du petit pois.
Voilà, c'est ça.
Le mystère est résolu.
Là, ensuite, on est face au basilic qui est un de nos en best-seller. On apprécie beaucoup le basilic. On a 5 variétés différentes en plantes adultes. Et donc là, vous l'avez au stade micro-pousse. Donc,
c'est joli comme tout. Ça fait, on dirait une espèce de matelas dufteux.
On a envie de s'y allonger, c'est très nuageux en fait.
Mmh. Oh, c'est bon.
Là, ce sont les pousses de micro-pousses de roquettes. C'est assez intéressant et on l'a lancé du coup sur le marché B2C, justement dans les rayons des supermarchés. Et les gens apprécient beaucoup en fait ça, notamment à l'apéro. En fait, nous on les propose carrément à l'apéro. On ouvre la petite boîte et on se les picore comme ça.
D'accord. Moi, il y a des plantes un peu plus grandes aussi. Donc là on est.
Voilà. Donc en fait là c'est le stade médium, on va dire. On prend les bébés plantes qui sont là-bas qu'on a fait démarrer, et ensuite on les implante ici. Et là donc elles démarrent leur croissance d'adolescent.
Oui, donc là on est sur du persil plat, non?
Voilà, c'est ça, on est sur du persil.
La structure même de plantation est particulière aussi, avec des sortes de tubes dans lesquels sont implantés les petits carrés de terre, les petites mottes. Et du coup, c'est complètement réutilisable.
Exactement, c'est totalement réutilisable. On n'est que sur des substrats organiques. C'est très optimisé.
Et l'eau, c'est de l'eau de ville ou c'est aussi de l'eau en partie de récupération de pluie, de ce genre de choses?
En fait, on aurait pu faire de la récupération d'eau de pluie. On a analysé ces sujets avec des ingénieurs. Et en fait, c'est assez compliqué parce qu'il faudrait retraiter l'eau pour qu'elle soit utilisable in fine pour la distribution. Et du coup, on a décidé de ne pas le faire parce que ça nécessite des process qui sont lourds. Et moi, j'aime pas trop l'idée d'altérer les minéraux naturels qu'il y a dans l'eau. Donc, l'eau du raisin nous va très bien.
D'accord. Bon, voilà. Magnifique. Donc, après être allé dans la serre en premier pour éviter de l'infecter avec des bactéries ou des moucherons, on enchaîne sur le potager en vrai, les pieds dans la terre.
Exactement.
C'est marrant parce que là on entend des camions et des trains et on est environné de grues qui sont en train de construire des tas d'immeubles. La Chapelle est un quartier qui est en train de complètement se transformer, non?
Exactement, c'est le plus grand réaménagement de quartier de Paris. C'est 155 000 m² en fait.
Et oui, ça fait 15 hectares quoi.
Voilà.
Alors on monte quelques marches et on arrive sur quasiment de la terre.
C'est ça.
Et on passe du béton à la nature.
C'est ça. Donc là, on est au tout début du potager. Donc on a un espace qui aujourd'hui est cultivé en courge et en été, on le laisse libre pour pouvoir accueillir des déjeuners et des dîners exclusifs, un petit peu champêtres, pieds nus dans le potager.
Donc là, entre les plants de tomates, il y a des plants de basilic pourpre. Alors on poursuit, alors là, à droite des tours, en face de nous des terrains de tennis et de basket.
Exact.
Et au milieu le potager, les pieds dans l'air, dans la terre.
Et donc là à notre droite on a tous nos rangs donc de mange-tout et de haricots. Donc,
des haricots verts.
Voilà, les haricots verts qui sont aujourd'hui dédiés à Pierre Armé et à Guy Savoie qui nous en prend beaucoup chaque semaine.
Eh bien ces haricots ont bien de la chance et Pierre et Guy ont bien de la chance aussi. Une caisse de navets.
Voilà, donc là ça va être tous nos rangs de carottes, navets et betteraves. On fait des associations aussi sur les légumes racines. Et au milieu, on va avoir typiquement toutes nos herbes aromatiques. Voilà, donc là c'est de la ciboulaille. C'est une variété que j'aime beaucoup parce que ça a vraiment le goût de la ciboulette avec en fin de bouche l'ail qui est assez puissant.
Et là, on va vers la fin du potager.
Voilà, donc là on a nos rangs de champs de laitue qui nous permettent de faire du mesclin qui se retrouve aujourd'hui notamment sur la table de la grande épicerie rive droite.
Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la plante de camembert. Je voudrais goûter ça.
Allons-y alors. Un petit peu de marche par contre.
Un petit peu. Donc, on ressort du...
du potager qui effectivement fait en gros 60 cm de haut.
Alors nous voilà face à la plante camembert. On l'aperçoit parce qu'elle est un petit peu velue, verte sur le dessus et violette sur le dessous. Et donc quand on la prend, on sent déjà une odeur de fromage en premier nez. Et si on frotte la feuille, plus on frotte et plus ça chauffe et plus ça se révèle.
Je confirme que ça sent quand même bien le camembert. C'est assez étonnant parce que c'est un camembert assez affiné déjà. On n'est pas sur un truc tout frais quand même.
Non, tout à fait, oui.
Et alors on bouche, on essaye. Alors c'est un peu amer au début. Et puis après on n'est pas loin du camembert noir, quoi. On est bien affiné. Ma fille dirait que ça pue le calendos. C'est fort. C'est vachement intéressant. Et alors les chefs adorent ou pas?
Les chefs curieux adorent, mais ça reste quand même pas notre best-seller.
Ah, la vache, quand on l'avale, ça...
Ouais, ça pique, hein.
Ah, non, c'est pas ça, c'est que c'est... Il y a une espèce de gros tour de camembert, quoi. Ouais. Écoutez, merci infiniment, Sarah, pour cette visite incroyable de la ferme Plantation Paris. On espère juste une chose maintenant, c'est qu'il y en aura très vite beaucoup, beaucoup, beaucoup ailleurs.
Merci, Daniel. J'étais vraiment ravie de vous accueillir et de pouvoir vous faire goûter nos produits.
Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc, merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Elsa Table. Je ne sais pas encore lequel, mais vous allez voir, ça sera super. Et n'hésitez pas à nous liker, nous commenter, nous donner même des notes, qui je serai persuadée seront excellentes. On aime tout ça aussi. À très bientôt sur Elsa Table.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.